Raphaël Maki.
Deux beaux esprits se rencontrent ce soir. Le premier aime les chansons de Leonard Cohen, les labyrinthes et le Japon. Le second a failli être médecin et il a ouvert le premier cinéma d'Irlande. Les deux parlent anglais et ont écrit de magnifiques romans d'amour. Le romancier et professeur de littérature Philippe Forest est à mes côtés ce soir pour évoquer la vie et l'œuvre de James Joyce. Pour la dernière émission de cet été, il a choisi de nous faire découvrir les livres de cet Irlandais mal aimé, connu de tous, certes, mais pas vraiment lu. La faute à cette légende qui le poursuit et qui le dit névrosé et illisible. Pendant des années, les romans de Joyce ont été censurés. Il y a bien sûr le magistral Ulysse, l'étrange Finnegan's Wake, le très personnel portrait de l'artiste en jeune homme et puis le populaire Jean de Dublin. La capitale de l'Irlande a servi de décor à tous ses ouvrages, mais lui préférait l'Italie et surtout Paris, où il a côtoyé dans les années 20 Hemingway, Beckett et même Marcel Proust. Ce soir, nous partons avec Philippe Forest sur ses traces, au risque, qui sait, de nous perdre dans le joyeux dédale de son écriture. Bonsoir Philippe Forest.
Bonsoir.
Alors, entre James Joyce et vous, c'est une longue histoire d'amour. Vous lui avez consacré deux essais, Beaucoup de jours aux éditions Cécile de Faux et Joyce était-il fou ? Nous allons en reparler. Vous revenez sur votre découverte de l'écrivain dans ses essais, une rencontre qui remonte à l'adolescence. Et c'est plutôt très rassurant d'apprendre que vous vous êtes plongé dans Ulysse, puisque c'était ce roman à 16 ans, à 17 ans. Ça veut dire aussi que c'est possible d'aborder ces livres très jeunes, ces livres qui sont réputés comme inaccessibles, difficiles. Alors aujourd'hui, Philippe Forest, quel souvenir gardez-vous de cette première lecture ? Sa prose rebute souvent certains lecteurs. C'est un auteur dont on a une certaine idée, mais qu'on ne lit pas beaucoup. Qu'en avez-vous pensé sur le moment ?
C'est très difficile, bien sûr, pour moi de me remettre dans la posture mentale qui était celle du très jeune homme que j'étais alors. Pour reprendre le titre de votre émission, je crois que lire Ulysse, par exemple, ne pose pas de problème à la condition d'accepter de s'égarer dans un livre. Mais justement, que demander à un roman, sinon la faculté qu'il nous donne de nous perdre, de perdre nos repères et de découvrir ainsi le monde différemment. Je crois que si j'ai lu d'abord Ulysse, c'est parce qu'enfant, j'étais fasciné par la mythologie grecque que j'avais découverte à travers une vieille collection qui s'appelait à l'époque Contes et légendes, et puis ensuite j'avais lu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et donc cela m'intriguait de savoir ce qu'un romancier du XXe siècle pouvait faire d'une telle histoire si ancienne, si fabuleuse. Donc j'ai lu Ulysse à l'âge que vous avez dit, et je n'y ai pas compris grand-chose, mais j'ai eu le sentiment qu'il se passait malgré tout quelque chose d'important dans ce livre vers lequel je suis retourné régulièrement et récemment encore, puisque donc il y a 3 ou 4 ans maintenant, relevant un peu le pari qui est celui d'une collection qui s'appelle Le Livre La Vie chez Cécile de Faux, j'ai consacré une année entière à relire Ulysse et à essayer de voir comment un tel livre peut constituer pour chacun d'entre nous une sorte de miroir dans lequel se réfléchit notre image.
Nous allons reparler d'Ulysse un peu plus tard. Alors avec Joyce, on est face à des livres difficiles, parfois illisibles. Alors l'adjectif est un peu fort hein, parce que sa langue en fait est très limpide. Il écrit en anglais, il n'invente pas du tout un autre alphabet ni rien. Mais lui-même se targuait, et ça c'est assez drôle, d'écrire des livres que ses futurs lecteurs mettraient des années, voire des siècles à comprendre. C'était une idée vraiment qui l'amusait aussi.
Oui, il disait qu'il allait donner du travail à l'université planétaire pour plusieurs dizaines d'années, voire pour plusieurs siècles. Il y a une difficulté, si on veut, de l'œuvre de Joyce, mais en même temps, il faut accepter cette difficulté. Et puis cette difficulté, elle est très variable. Si vous prenez le premier livre de Joyce, Jean de Dublin, c'est un livre très classique. Je veux dire, il n'est pas plus difficile à lire que Les Contes de Maupassant, par exemple. Portrait de l'artiste ressemble beaucoup à ce que Proust a pu écrire au début de La Recherche du Temps Perdu. Le seul qui pose véritablement problème, c'est vrai, c'est le dernier roman de Joyce qui s'appelle Finnegan's Wake et qui est construit dans une langue qui en mélange plusieurs autres. Chaque mot est en quelque sorte comme un néologisme, un mot valise. Mais là encore, il faut accepter ça comme une expérience et comprendre que derrière ce jeu sur le son, il y a aussi un sens véritable qui est à entendre et qui nous dit des choses, non pas seulement sur la littérature, mais sur la vie et sur le monde.
Alors certaines personnes, Lacan pour ne pas le citer, l'ont rapidement affublé de l'étiquette de fou littéraire. Alors ça c'est une étiquette...
Enfin Lacan était prudent, c'est-à-dire il posait la question de savoir si Joyce était fou ou pas, mais il se gardait bien de répondre.
Oui, en tout cas il la laisse en suspens et voilà. ça a donné lieu, en tout cas dans votre cas, à l'écriture d'un essai assez rafraîchissant parce qu'il justement, il dépoussière un peu ses idées reçues. Pourquoi l'associe-t-on dans l'idée, voilà, et à quelqu'un de névrosé, lui qui était, comme vous le dites, un mari fidèle, un père aimant, quelqu'un d'assez banal en fait.
Oui, bon, il était névrosé comme vous, comme moi, comme n'importe qui, mais il a réussi, sur la base de cette névrose banale qui sans doute était la sienne, à construire une œuvre universelle qui parle à chacun d'entre nous et à trouver aussi un équilibre personnel, mental, psychologique, affectif qui, je crois, en vaut un autre. On veut à tout prix que les écrivains soient fous. Ils le sont parfois, mais la littérature est en général la manière grâce à laquelle ils établissent un certain commerce avec leur propre folie et survivent à celle-ci. C'est tout le sens notamment du fameux épisode des sirènes dans l'Odyssée que Joyce reprend dans Ulysse. Il faut accepter de s'exposer au chant des sirènes, mais en ayant pris soin de s'accrocher solidement au bastingage pour éviter de finir au fond de l'océan.
Alors parlons de l'écrivain justement et pas du névrosé, de Joyce écrivant une œuvre fabuleuse, y travaillant d'arrache-pied, détruisant parfois ses manuscrits pour les recommencer, les améliorer. L'un de ses tout premiers livres, c'est Portrait de l'artiste en jeune homme. Il l'écrit au début des années 1900 et c'est publié 10 ans plus tard. C'est un roman qu'on présente souvent comme autobiographique, mais c'est surtout la première fois qu'apparaît Stephen Dedalus, qui est le personnage récurrent de Joyce, qu'on retrouvera dans Ulysse. Je vous propose d'écouter un extrait du chapitre 3 de ce livre. Voici le jeune Dedalus, donc pensif, soucieux, en pleine confusion existentielle. Qui est-il? Que va-t-il faire de sa vie? Lionel Parlier nous lit cette très belle page.
Tandis que Stephen s'en retournait chez lui avec des compagnons silencieux, un épais brouillard semblait bloquer son esprit. Il attendait, frappé de stupeur, que ce brouillard se levât et lui montrât ce qu'il avait caché. Il avala son dîner avec un appétit hargneux. Puis, le repas terminé, tandis que les assiettes grasses gisaient à l'abandon sur la table, il se leva et alla à la fenêtre, enlevant avec sa langue l'écume qui lui épaississait la bouche en la léchant sur ses lèvres. Ainsi, il était descendu jusqu'à l'état de la bête qui se pourlèche après les repas. Voilà où il en était. Une faible lueur de crainte commença à percer le brouillard de son esprit. Il appuya son visage contre la vitre et se mit à regarder la rue qui s'emplissait d'obscurité. Des formes passaient dans un sens et dans l'autre, sous une morne lumière. Et cela, c'était la vie. Les lettres du nom de Dublin se posaient lourdement sur son esprit, se bousculant hargneusement entre elles avec une insistance tenace et bourrue. Son âme se figeait, se congelait en une graisse compacte, s'enfonçant de plus en plus, avec sa morne crainte, dans un crépuscule sombre et plein de menaces. Et ce corps qui était le sien restait debout, apathique, déshonoré, cherchant avec des yeux obscurcis, dans son impuissance, sa confusion, son humanité, quelque dieu bovin sur qui fixer le regard.
Stéphane Dédalus dans le brouillard de Dublin et de sa vie aussi. Philippe Forest, ce Dédalus, il va bientôt se découvrir artiste. Et même s'il faut faire attention aux assimilations, il y a quand même un peu de Joyce dans le projet de Dédalus de s'exprimer, je cite, « aussi librement et aussi complètement que possible, avec pour seule arme le silence, l'exil ». Et la ruse. Alors là, c'est assez intéressant parce que Joyce aussi, il a été cet écrivain-là, exilé la moitié de sa vie, rusé à sa manière, parce qu'il a voulu aussi contourner, esquiver ce qui se faisait, dans l'écriture, littérairement parlant, à l'époque. Dans quelle mesure, selon vous, cette œuvre de jeunesse, qui est aussi un roman d'éducation, correspond ou pas à la vie et aux aspirations de son auteur?
Mais moi, je crois que c'est toute l'œuvre de Joyce qui est autobiographique, qui constitue comme une sorte de long roman autobiographique sous des formes différentes, de Jean de Dublin à Portrait de l'artiste, de Portrait de l'artiste à Ulysse et de Ulysse à Finnegan's Wake. Une autofiction, si on veut. Moi, c'est un point qui m'a intéressé parce qu'on me range toujours, malgré moi, dans la catégorie des faiseurs d'autofiction. Et si l'autofiction a un sens, c'est au sens que Joyce et quelques autres lui ont donné. Il y a de la part de Joyce la volonté de dire sa vie à travers le roman. Il y a une anecdote, ou plutôt une citation que moi j'aime beaucoup. Joyce avait un ami qui est une sorte de confident qui s'appelait Frank Budgen et qui a écrit un livre dans lequel il rapporte les entretiens qu'il a eus avec l'auteur de Portrait de l'artiste et d'Ulysse. Et à un moment, Joyce lui fait cette déclaration que les spécialistes de son œuvre relèvent très rarement. Joyce lui dit « Moi, je préfère nettement... » Rousseau, qui dans ses confessions raconte le vol insignifiant dont il s'est rendu coupable d'une petite cuillère ou d'un ruban, à Dostoïevski, qui raconte un crime spectaculaire qu'il n'a fait qu'imaginer. Voilà. Pour Joyce, le roman, il est du côté du vrai, il est du côté du réel, et donc ça suppose cette espèce de face-à-face avec sa propre vie dont la littérature devient le lieu.
En cela, il est quand même très proche de Marcel Proust et du projet d'À la recherche du temps perdu, d'un homme qui se découvre écrivain au fur et à mesure qu'il écrit.
Ah oui, absolument. Mais Portrait de l'artiste en jeune homme ressemble beaucoup à La recherche du temps perdu. Et ce sont deux livres qui baignent à peu près dans le même climat d'époque et qui disent cette prise de conscience par un individu de sa vocation poétique. Dédalus, c'est un peu un poète post-symboliste égaré dans l'Irlande provinciale du début du XXe siècle. Et Joyce... Mais il faut le dire avec beaucoup d'ironie, se met en scène lui-même tel qu'il a été et tel qu'il a cessé d'être en vieillissant, en grandissant, en devenant d'abord l'auteur de Portrait de l'artiste et ensuite l'auteur d'Ulysse. Parce qu'à mon avis, il y a un gros contresens quand même à réduire Joyce à l'image de lui-même qu'il donne à travers la figure de Stephen Dedalus. Joyce est Stephen Dedalus, mais il est autre chose aussi. Et c'est parce qu'il est autre chose que Stephen Dedalus qu'il va devenir le grand romancier qu'il est finalement devenu et ne va pas rester le poète quand même mineur qu'il a commencé par être.
Alors, il y a une anecdote assez intéressante dans ce portrait de l'artiste en jeune homme. Dédalus hésite à entrer dans les ordres. En tout cas, il a une éducation très religieuse, très rigoriste. Et c'était le cas aussi de Joyce. Il a hésité un temps.
Ah ben, le catholicisme était très présent dans la formation de Joyce, irlandais, élevé chez les jésuites, dont toute l'œuvre romanesque est pleine de références à la foi chrétienne et même à la théologie de manière très, très savante. Hein. Joyce est un grand lecteur de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Et de fait, il raconte dans Portrait de l'artiste l'espèce de conversion exaltée qu'il connaît, il faut dire, au moment de la puberté et dont il va se soigner par la découverte du sexe et le commerce des prostituées.
Joyce a voulu réinventer le roman et peut-être le langage. Le musicien et chanteur Nosfell a fait de même. Voici l'envoûtant Chaunipoule. The petals of desperate roses, a complicated mix of causes, effects and shapes of six beasts, a mix of musk and milky kisses. It speaks on his own and his only home. The wooden walls may hear the song. Smell his teeth and taste the stone. The marbles drink, I provide one. Help me minimize the way I blend. Sip off the hatred while I sway. Above the sand, these stupid tears. The wrath of Chaunipoule you'll fear. Cause I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, the sound of all, the soul and all. Queer
the red shirt act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal. In every corner, every turn, magnificent brill of all this shall not call the soul alone. Queer, red shirt act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal. In every corner, every turn, magnificent thrill of all they shall not call the soul at law. Queer, wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal. In every corner, every turn, magnificent thrill of all they shall not call the soul at law. Queer, wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal. In every corner, every turn, magnificent thrill of all they shall not call the soul at law. Queer, wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal.
Les beaux esprits se rencontrent. Laura El Maki sur France Inter.
J'ai rencontré Joyce en 1920 et il est venu tout de suite me voir. Alors il m'a raconté qu'il était très ennuyé parce qu'en Amérique, on était en train de supprimer son Ulysse. Et ça paraissait dans une little review et on avait supprimé 4 fois et finalement on avait traîné devant le tribunal les éditrices. Alors, j'ai entrepris de faire paraître Ulysse en France, mais naturellement en anglais. Alors, ça a fait une grande sensation. J'ai tiré à 1000 exemplaires et ça a été tout souscrit avant, mais Joyce avait dit « Oh, personne n'achètera cet ennuyeux livre ».
Nous écoutions à l'instant la délicieuse Sylvia Beach, libraire et éditrice américaine, qui a connu Joyce et qui a publié Ulysse pour la première fois en France en anglais, dans une version originale. Joyce dit, et c'est très étonnant, que c'est un livre ennuyeux. Il avait confié ça à Sylvia Beach, et la postérité l'a souvent envisagé comme l'un des livres les plus complexes de l'histoire littéraire. Et vous, Philippe Forest, vous considérez que c'est paradoxalement un roman assez facile à résumer. C'est l'histoire finalement d'un héros qui passe une journée dans une ville et il lui arrive certaines choses.
Voilà, vous avez tout dit. La journée, c'est le 16 juin 1904, parce que c'est le jour où Joyce a rencontré Nora Barnacle, qui allait devenir sa maîtresse puis sa femme. Donc il s'agit pour lui de célébrer cet événement de sa vie intime.
C'est une petite parenthèse, mais cette date est fêtée en Irlande chaque année.
Chaque année, enfin moi j'ai jamais eu la chance d'être à Dublin à ce moment-là, mais chaque année, le 16 juin 1904, il y a des gens qui rejouent dans la ville, parce que les lieux du roman, pour la plupart, existent encore. Donc il y a des gens qui rejouent en costume d'époque dans la ville les différentes scènes du roman. Okay. Et il y a tout un Dublin touristique pour les gens qui s'intéressent à Joyce. On peut visiter les hauts lieux du roman qui raconte l'histoire de Bloom. Donc ça se passe le 16 juin 1904. Du matin à la nuit qui suit, à Dublin, exclusivement à Dublin et dans les environs proches. Et ça raconte l'histoire d'un homme, Léopold Bloom, qui vit des aventures très ordinaires. Il s'agit d'aller vers le plus insignifiant, de manière à ce que sorte de cette histoire une légende qui vaille pour tous les hommes et pour toutes les époques.
Alors cette légende, Joyce s'inspire d'Homère en tout cas pour la construire, pour la réécrire. Il est totalement fasciné par l'Odyssée d'Homère. C'est un livre qui le fascine, qui lui fait peur aussi, mais il se lance quand même dans l'aventure de la réécriture. Et il choisit une réécriture assez libre, parce qu'il déplace finalement les enjeux du modèle, il modernise aussi l'action. C'est une réécriture en ce sens assez stupéfiante. On cherche parfois même les références à l'Odyssée.
Oui, elles sont si bien cachées que si Joyce n'avait pas pris le soin de les indiquer lui-même, sans doute personne ne serait avisé du fait que Ulysse est effectivement, d'une certaine manière, la réécriture de l'Odyssée. Joyce aimait bien jouer avec ses lecteurs, donc il avait établi toutes sortes de schémas de manière à faire apparaître les références à Homère qui se trouvent dans son texte. Mais c'est une transposition qui tire, bien sûr, l'Odyssée du côté de la modernité, mais aussi du côté du romanesque, de la parodie, du comique. Ulysse devient Léopold Bloom, c'est-à-dire un petit bourgeois juif dublinois, publicitaire de son état, trompé par sa femme Molly, qui est donc beaucoup moins vertueuse et fidèle que la Pénélope originale. Télémaque devient le fameux Stephen Dédalus dont on avait parlé tout à l'heure. Et cette transposition, elle opère sur chacun des grands épisodes du poème d'Homère. Par exemple, le combat avec le cyclope devient un affrontement dans un pub dublinois. Le bordel de Circé devient... Le palais de Circé devient un bordel et sous l'effet de l'alcool se produisent d'étranges hallucinations qui font croire à l'un des personnages que le monde autour de lui se métamorphose et que lui-même se métamorphose à son tour. Voilà, ça c'est le principe de l'Ulysse de Joyce.
Il est très drôle ce roman, il y a un côté même rabelaisien au fil des pages, cet humour caustique, voilà, c'est vraiment un roman très agréable à lire aussi pour ça, et il faut le préciser, voilà, c'est un roman, c'est une somme, 800 pages, c'est très dense, les chapitres aussi parfois font référence à des choses qu'on ne connaît pas peut-être, si on n'a pas lu Homère, mais c'est un livre qui est facile à lire aussi pour ça.
Mais on peut lire Ulysse de Joyce sans se soucier du tout de l'Odyssée d'Homère et prendre le livre simplement comme un roman donc, qui met en scène la vie elle-même dans ce qu'elle a de tragique, de pathétique, l'expérience du deuil notamment, la douleur d'aimer, mais aussi dans ce que la vie quotidienne a de plus simple, de plus immédiat. Si Joyce a choisi Ulysse comme modèle pour Léopold Bloom, c'est parce qu'Ulysse est pour lui le personnage le plus universel, celui auquel chacun d'entre nous peut s'identifier. Vous vous rappelez que lorsque Polyphème, le cyclope, demande à Ulysse quel est son nom, Ulysse répond « personne ». Voilà. Bloom, c'est personne, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, d'où l'universalité du roman et ses dimensions effectivement très réalistes, scatologiques, rabelaisiennes également.
Oui, il voulait en faire l'épopée du genre humain, c'est sa phrase. Il y a un point sur lequel je m'interroge un petit peu. Il disait « La vie, c'est beaucoup de jours ». C'est-à-dire le titre, vous avez repris cette phrase oui. pour votre essai. Et là, il choisit une journée, une seule et même journée pour raconter la vie entière d'un homme, enfin resserrée dans cette journée. Pourquoi cette temporalité resserrée ?
Joyce était, c'est un élément de réponse parmi d'autres, mais Joyce était un grand lecteur d'Aristote. Et donc il se souvenait peut-être de la poétique qui parle pour la tragédie et pas du roman, mais le roman à l'époque n'existait pas, pas tel que nous le connaissons, de l'unité de temps, de l'unité de lieu, de l'unité d'accent. Non. Donc ce roman d'avant-garde est aussi construit selon des schémas qui sont très classiques. Et puis ce jour, il contient tous les jours. C'est un passage que j'aime beaucoup d'Ulysse, dans lequel il est question de Shakespeare et ce que Joyce écrit. Enfin, je cite de mémoire et donc approximativement. La vie, c'est beaucoup de jours, jour après jour. Nous marchons à travers nous-mêmes, rencontrant des voleurs, des mendiants, des géants, des amoureux, mais toujours nous rencontrant nous-mêmes. Voilà, mais je crois que la vraie littérature, elle nous invite à un tel voyage à travers le monde, à travers l'espace, à travers le temps, mais de telle sorte que partout et toujours, c'est nous-mêmes que nous reconnaissons de manière à nous découvrir mieux et différemment.
Ce nous-mêmes dans le roman, c'est Léopold Bloom. Joyce fait le portrait de cet homme on ne peut plus banal qui se lève un matin et qui a une envie subite de manger des rognons.
Monsieur Léopold Bloom se nourrissait avec délectation des organes internes des mammifères et des oiseaux. Il aimait une épaisse soupe d'abatis, les gésiers au goût de noisette, un cœur rôti avec sa farce, des tranches de foie frites dans la chapelure, des œufs de morue rissolés. Par-dessus tout, il aimait les rognons de mouton au grill qui flattaient ses papilles gustatives d'une belle saveur au léger parfum du riz. Il avait des rognons en tête, tandis qu'il allait et venait sans bruit dans la cuisine, disposant son petit déjeuner à elle sur le plateau bosselé. Dans la cuisine, un air froid, une clarté froide, mais dehors, une douce matinée d'été partout répandue. Et ainsi, il commençait à se sentir le ventre creux. Les charbons rougissaient. Une autre tranche de pain beurré. 3, 4. Bon. Elle n'aimait pas que son assiette fût pleine. Bon. Il laissa le plateau prit la bouilloire sur le rebord du foyer et la plaça sur le feu, un peu de côté. Sise là, d'aplomb et maussade, le bec agressif. Thé bientôt. Tant mieux. Gorge sèche. La chatte tournait contre le pied de la table, raide et la queue en l'air. Ah, vous voilà. La chatte répondit par un miaulement et fit un nouveau tour de pied de table, toujours roide et miaulant. La même dégaine que sur ma table à écrire. Gratte ma tête. Monsieur Blum observait, curieux et bonhomme, la souple silhouette noire. C'est si net, le lustre de son fourreau lisse, le bouton blanc sous la queue, le phosphore des prunelles vertes. Les mains aux genoux, il se pencha vers elle. « Du lait pour la minouche !» Il l'écoutait laplaper. Œufs et jambon ? Non. Pas de bons œufs par cette sécheresse. Besoin d'eau fraîche. Jeudi, pas un bon jour non plus pour un rognon de mouton chez Buckley. Frit au beurre avec un soupçon de poivre. Plutôt un rognon de porc chez Dlougash, pendant que l'eau chauffe. La chatte lapait plus lentement, puis nettoyait la soucoupe. Pourquoi ont-ils des langues si rêches? Pour mieux laper, percer comme des râpes. Rien qu'elle puisse chaparder, il regarda autour de lui. Non. Ses souliers craquant discrètement, il monta l'escalier jusqu'à l'antichambre et s'arrêta devant la porte de la chambre à coucher. Il dit à mi-voix dans l'antichambre nue « Je vais jusqu'au coin, de retour dans une minute. » Le son de sa voix dans les oreilles, il ajouta « Vous ne désirez rien pour votre déjeuner ?» Un faible grognement somnolent Non. Elle ne désirait rien.
Voici un personnage, Philippe Forest, aux antipodes du héros d'Homère. Joyce le met en scène dans une situation presque triviale, hein, comparée aux pérégrinations d'Ulysse. Juste après ce breakfast, il quitte donc son domicile. Il va débuter sa journée d'errance dans les rues de Dublin. Et cette errance, elle est primordiale dans le roman parce qu'elle est présente aussi dans le prénom des personnages. Dédalus, c'est le dédale, et Bloom, ça signifie en anglais florissant. Donc Joyce nous tend à travers ce roman un vrai labyrinthe.
Oui, la ville de Dublin devient un labyrinthe qui est lui-même le miroir du labyrinthe du monde que réfléchit à son tour le labyrinthe du livre. Il y a un chapitre central d'ailleurs qui essaye de donner un peu l'idée de cette complexité à l'intérieur de laquelle évoluent les personnages. Et donc le lecteur, comme l'auteur, comme le personnage, se trouve à son tour errant dans cet univers-là où il s'agit de triompher d'un certain nombre d'épreuves pour finalement rentrer chez soi.
Ce qui est drôle, c'est que Joyce, quand il a écrit ce livre, il n'était pas du tout à Dublin. Il était à l'époque en Italie et il se souvenait du coup de cette ville de mémoire. Il a reconstitué la ville, les rues de mémoire.
Oui, il demandait à ses amis ou à sa famille de lui envoyer les informations qui lui manquaient parce qu'il avait le rêve un peu fou, un peu mégalomaniaque de créer un livre qui serait à l'image exacte de la ville. Et il disait même que si on détruisait Dublin, on pourrait reconstruire la ville pierre par pierre sur la base de son seul roman.
Voilà. Revenons au couple. Léopold et Molly, c'est l'histoire finalement qui est au cœur de ce livre, même si elle n'apparaît pas tout de suite. Ce couple qui s'est aimé, qui est en train aussi de se séparer, c'est un sujet, ça, une thématique qui est très présente dans vos romans. Je pense notamment au Nouvel Amour. Est-ce que c'est le véritable sujet finalement de ce roman?
En tout cas, c'est le sujet du roman tel que moi je l'ai lu. Parce que notamment, il y a au cœur du livre quelque chose à quoi moi j'ai été particulièrement attentif, qui est l'expérience que Bloom a vécue une dizaine d'années avant que le roman commence, de la perte de son fils, qui est mort quelques jours après la naissance. Et c'est une sorte de fantôme qui le hante, qui l'accompagne dans ses pérégrinations et qui, en quelque sorte, explique la situation dans laquelle il se trouve. Et du côté de Molly, donc il faut bien voir que si Léopold Bloom erre comme ça dans Dublin, c'est aussi parce qu'il n'est pas pressé de rentrer chez lui, parce qu'il a des bonnes raisons de penser que Molly est en train de recevoir au domicile conjugal, dans le lit conjugal, l'homme qu'elle s'est choisi pour amant. Donc c'est une histoire aussi de tromperie, d'amour, de fidélité et d'infidélité à la fois. C'est ce qui fait aussi de ce roman un roman qui parle à tout le monde. Moi, j'ai justement, dans le livre que vous évoquiez, le Nouvel Amour, je dis que tous les romans sont en réalité des romans d'amour. Et on lit rarement Ulysse comme ça, mais Ulysse, c'est aussi un très grand roman d'amour.
Que nous dit la fin du roman de James Joyce, Léopold Bloom, qui se remet au lit avec Molly et qui décide de rester avec elle malgré les difficultés de leur couple? Quelles leçons tirer de cette histoire?
C'est une fin très ouverte en fait, et depuis que le roman a paru, les lecteurs et puis après eux les critiques, les spécialistes se disputent un peu sur le sens de cette conclusion et sur les implications, les interprétations qu'on peut en tirer. Donc Bloom se couche auprès de Molly, qui donc a reçu la visite de son amant dans l'après-midi. On ne sait pas très bien ce qu'il va advenir de leur couple. Il y a une sorte de double conclusion à la fois masculine et féminine qui fait entendre les voix des deux personnages alors que le roman est sur le point de s'achever. Et puis ça se termine surtout par ces pages dont il faut bien dire qu'elles sont parmi les plus sublimes dont la littérature du XXe siècle peut donner l'exemple. C'est ce qu'on appelle le monologue de Molly Bloom. C'est un long texte romanesque et poétique à la fois, sans ponctuation, qui, selon la technique qui est devenue fameuse grâce à Joyce du monologue intérieur, nous fait rentrer dans la conscience de Molly, qui elle-même est à moitié endormie. Donc c'est un homme qui fait parler une femme, qui fait parler une femme pour lui faire dire en quelque sorte l'espèce de présence au monde qui est la sienne. Il y a quelque chose qui revient tout au long du roman. Et c'est Stephen Dedalus qui se pose la question de savoir quel est ce mot que tous les hommes savent. Voilà, comme s'il y avait une sorte de mot de l'énigme, de secret qu'il fallait découvrir pour ne pas passer à côté de l'existence. Et au cours de cette fameuse nuit dans le bordel que j'évoquais tout à l'heure, le fantôme de la mère de Stephen lui apparaît et Stephen à nouveau pose à ce fantôme, à cette mère donc qu'il a quittée, la question donc quel est ce mot que tous les hommes savent. Et moi je suis convaincu que ce mot que tous les hommes savent, c'est celui par lequel s'achève le monologue de Molly Bloom, qui se trouve scandé par une affirmation qui se répète comme ça de façon très rythmique, très poétique. Oui, oui, je le veux. C'est un oui d'assentiment à la vie, un oui d'assentiment au désir. Je trouve ça bien qu'un romancier donne le dernier mot de son livre à un personnage, et qui plus est, à un personnage féminin. Comme si finalement il y avait cette vérité que l'auteur et le héros n'entendent pas, mais que le lecteur peut découvrir en prêtant l'oreille à cette formidable voix féminine par laquelle le livre s'achève.
Alors cette question du couple est au cœur d'une très belle nouvelle de Joyce, la dernière de Jean de Dublin, qui a pour titre « Les morts ». C'est certainement le livre le plus lu de Joyce, peut-être le plus accessible aussi. Cette nouvelle, c'est le récit. C'est un récit où il ne se passe pas grand-chose. On assiste à une grande réunion de famille qui a lieu pour Noël dans une grande demeure de Usher's Island, donc toujours à Dublin. Gabriel et sa femme Greta sont invités. Et à la fin de la soirée, Gabriel se prépare à repartir. Et il aperçoit Greta qui est bouleversée par une musique qu'elle vient d'entendre et qui lui remet en mémoire un souvenir très lointain. Celui d'un amour de jeunesse, mort brutalement. Là aussi, cette question de l'amour, de la déception, du doute, de peut-être ne pas connaître la personne avec qui l'on est, ressurgit.
Oui, ça a été un des grands thèmes de l'œuvre de Joyce et sans doute l'une des grandes obsessions de son existence. Là, ce mari réalise que la femme qu'il aime et auprès de laquelle il a vécu depuis longtemps, en fait, depuis toujours, n'a pas cessé d'être amoureuse d'un autre qui est un fantôme. C'est une nouvelle très, très belle, beaucoup plus classique dans sa forme que les autres textes de Joyce dont on a parlé, qui a inspiré les cinéastes. Il y a un film magnifique de John Huston qui est son dernier film, son film Testament, John Huston qui était lui-même d'ascendance irlandaise et qui porte à l'écran donc cette histoire, qui a inspiré aussi, c'est moins connu, mais moi c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché quand je l'ai découvert, qui a inspiré le fameux film de Rossellini, Voyage en Italie, et à travers lui, d'une certaine manière, le mépris de Godard qui est lui-même une sorte de réécriture cinématographique du Voyage en Italie de Rossellini et qui évoque, donc, comme on sait, une transposition cinématographique d'Ulysse. Donc tout ça se tient pour dire ce que les spectateurs du Mépris ou de Voyage en Italie savent, c'est-à-dire cette espèce de fort inimitable description du couple qu'on trouve dans toutes ses œuvres.
Alors vous allez nous lire les deux derniers paragraphes de cette nouvelle. C'est Gabriel donc, qui réfléchit à sa vie, à son couple, tout en regardant sa femme dormir. C'est la toute fin de la nouvelle.
Il n'avait jamais lui-même rien éprouvé de tel pour une femme. Mais il savait qu'un tel sentiment devait être l'amour. Les larmes se pressèrent, plus de rue, et dans la demi-obscurité, il crut voir la forme d'un adolescent, debout sous un arbre, dégoulinant de pluie. D'autres formes étaient à proximité. Son âme s'était approchée de cette région, où demeurent les vastes cohortes des morts. Il avait conscience de leur existence, capricieuse et vacillante, sans pouvoir l'appréhender. Sa propre identité s'effaçait et se perdait dans la grisaille d'un monde impalpable, ce monde bien matériel que ces morts avaient un temps édifié et dans lequel ils avaient vécu, était en train de se dissoudre et de s'amenuiser. Quelques petits coups légers sur la vitre le firent se tourner vers la fenêtre. Il avait recommencé à neiger. Il suivit d'un œil ensommeillé les flocons argentés et sombres qui tombaient obliquement dans la lumière du réverbère. Le temps était venu pour lui d'entreprendre son voyage vers l'ouest. Oui, les journaux avaient raison. La neige était générale sur toute l'Irlande. La neige tombait sur chaque partie de la sombre plaine centrale, sur les collines sans arbres, tombait doucement sur le marais d'Allaine et plus loin vers l'ouest, doucement tombait sur les sombres vagues rebelles du Shannon. Elle tombait, aussi, en chaque point du cimetière solitaire, perché sur la colline où Michael Furay était enterré. Elle s'amoncelait, drue, sur les croix et les pierres tombales, tout de travers, sur les fers de lance du petit portail, sur les épines dépouillées. Son âme défaillait lentement, tandis qu'il entendait la neige tomber, évanescente, à travers tout l'univers, et, telle la descente de leur fin dernière, tombée, évanescente, sur tous les vivants et les morts.
Merci Philippe Forest. Je signale la parution de votre dernier ouvrage, Retour à Tokyo, aux éditions Cécile Defaux. Toutes les références des autres livres cités ce soir à l'antenne sont indiquées sur la page de l'émission franceinter.fr, rubrique Les beaux esprits se rencontrent. Céline Hilla a réalisé cette émission avec Loïc Frapsos à la technique et Fabrice Desmaz au mixage. Merci à eux trois, mais aussi à Leila Kouros-Eliqua et Coquelicot Vital qui m'ont aidé à la préparer tout l'été. Je salue également notre lecteur Lionel Parlier, Isabelle Fort-Rendu aux archives INA, Djoubaka et Mélissa Fulpin pour la programmation musicale. Très belle fin d'été sur France Inter et à très bientôt.
Merci à vous, Laura El Maki. C'était donc Les Beaux Esprits se rencontrent sur France Inter.